Bonjour et bienvenue dans le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ce podcast, nous chercherons à comprendre comment les algorithmes peuvent se mettre au service des enjeux de la transition climatique, en l'occurrence la mesure de l'hydrométrie de la planète. Pour en parler, je reçois Florence Tupin, enseignante-chercheuse à Télécom Paris et depuis peu responsable du département Images, Données, Signal. Florence, vous développez des méthodes de traitement et d'analyse d'images et vous vous êtes peu à peu spécialisée dans le domaine de l'imagerie de télédétection. Alors vous travaillez sur le traitement des images en intelligence artificielle, notamment pour améliorer la qualité et donc l'exploitation des données acquises par les satellites. Alors en quoi cela consiste précisément ?
Alors notre rôle, c'est vraiment de développer des méthodes pour améliorer les données, donc des images, qui nous concerne, ou extraire de l'information à partir de ces données. Donc, on propose en fait des nouveaux algorithmes qui permettent de combiner à la fois une modélisation mathématique du problème, l'amélioration d'images, l'extraction d'informations, et qui permettent en même temps d'intégrer des connaissances sur la physique d'acquisition des images, d'une part, et d'autre part, d'intégrer aussi des connaissances sur le domaine applicatif, c'est-à-dire en gros des contraintes, par exemple, sur les résultats qu'on va essayer d'obtenir. En gros, on fait des maths, on essaye d'utiliser la physique du système d'acquisition et des connaissances expertes sur le domaine d'application.
Oui, alors cela fait beaucoup de données de nature différente, donc beaucoup de compétences à mobiliser dans le traitement de ces données, j'imagine.
On peut dire que le traitement d'image, je vais parler du domaine du traitement d'image, c'est un domaine un petit peu pluridisciplinaire puisque le cœur de cette discipline, ça va être quand même les mathématiques appliquées et puis en ce moment la science des données, mais on va essayer d'exploiter quand même des compétences, des connaissances de la un petit peu physique sur le système d'acquisition. Ça, c'est un peu la spécificité du traiteur d'image par rapport à un traiteur de données qui va être un peu agnostique par rapport à d'où viennent les données, comment elles ont été acquises, etc. Nous, en image, on va quand même avoir des connaissances sur le capteur, le système d'acquisition qui permet d'avoir les images. Et puis, on va essayer autant que possible d'intégrer des connaissances sur pour quel type d'application on essaye d'extraire des informations. Donc, si on fait de l'imagerie médicale, on va introduire des connaissances sur le corps humain. Si on fait de la télédétection, on va introduire des connaissances sur la cartographie, par exemple.
Quand vous parlez d'amélioration des données acquises, ça veut dire qu'elles ne sont pas de très bonne qualité au départ et qu'il y a un enjeu d'amélioration donc de leur qualité.
Alors, en fait, on peut avoir différents enjeux par rapport à la qualité des données. On peut améliorer des données, par exemple, pour essayer de réduire le temps d'acquisition. Donc, par exemple, vous voyez, en imagerie médicale, c'est pas qu'ils sont pas capables de faire des très bonnes données, mais par exemple, on veut que le patient il reste le moins longtemps dans le système IRM ou qu'il reçoive la plus petite charge, au niveau du système d'acquisition. Donc, on essaye de voir si on peut acquérir des données de moins bonne qualité, mais qu'ensuite les traitements, l'intelligence par ordinateur qu'on va mettre dans notre système soit capable de retrouver des données d'aussi bonne qualité. Donc moi, je suis plutôt spécialiste de l'imagerie de télédétection et notamment de l'imagerie radar à synthèse d'ouverture. Ça s'appelle l'imagerie SAR, mais en gros de l'imagerie radar, disons. Et par nature, ces données, elles sont très bruitées. C'est comme les échographies aussi, c'est des données qui sont brutes. Enfin, il y a certains systèmes d'acquisition, de par la physique même qui sous-tend le système d'acquisition, les données, elles sont forcément brutées, c'est-à-dire que vous avez une grosse variabilité. Supposons que la mesure d'intérêt, elle va être 100, ben vous allez mesurer 80, 105, 110, 88, etc. Donc, vous allez avoir énormément de variabilité autour de la vraie mesure physique qui serait celle qui vous intéresserait vraiment. Et donc, en traitement d'image, il y a toute une branche de restauration d'image pour essayer que ces images elles soient avec moins de fluctuations, qu'il n'y ait pas d'artefacts, qu'elles ne soient pas floues. Donc, typiquement, on va essayer d'améliorer les images pour qu'ensuite elles soient plus faciles à exploiter et que ce soit plus simple d'extraire l'information de ces images restaurées.
Alors Florence, pour être un peu plus concret, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que l'IA peut faire dans votre domaine pour améliorer la qualité des images en amont et donc les performances dans l'utilisation qui sera faite par la suite ?
Ça peut être par exemple essayer de faire ce qu'on appelle de la super résolution. Donc on a une image où les pixels ils sont un peu trop gros, ben, on va essayer de faire des méthodes d'IA qui soient capables de retrouver de la résolution, alors ou en combinant plusieurs images ou en utilisant des exemples, on va dire, pour essayer de prédire quelle serait une image mieux résolue dans un domaine particulier. Donc là, bon, faut faire un petit peu attention parce qu'il faut quand même pas créer d'informations. Mais typiquement, quand on fait de la super résolution, bah, on essaye d'améliorer la résolution du capteur dont on est parti.
Vous parlez de capteurs, et ils sont, j'imagine, très divers. Vous avez cité l'exemple des IRM en imagerie médicale. Et vous, Florence, vous travaillez sur des images transmises par les satellites, mais on est sur un spectre très large.
Je fais partie d'une équipe qui fait du traitement d'images. Et donc, voilà, il y a des gens qui travaillent sur différents types de données. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on va tous utiliser, en gros, de la modélisation mathématique, de l'apprentissage statistique pour résoudre des problèmes qui sont relativement similaires, améliorer les données, extraire de l'information. Là où ça va diverger un petit peu, c'est dans la physique d'acquisition. On va pas avoir les mêmes systèmes d'acquisition si on fait de l'imagerie médicale cérébrale avec de l'IRM ou moi qui fais de l'imagerie satellitaire avec mon satellite radar. On va pas avoir les mêmes domaines d'application puisque moi je vais m'intéresser à des problématiques environnementales alors que eux ils vont s'intéresser à des problématiques en santé par exemple, mais disons que le cœur des méthodes, bah il va quand même être le même et les modèles mathématiques qu'on va utiliser, ils vont être les mêmes.
On va maintenant se concentrer sur votre domaine de recherche actuel, la télédétection. Alors, d'abord, pouvez-vous nous dire, Florence, en quelques mots, ce dont il s'agit ?
Disons que pour simplifier, on va dire que c'est l'imagerie satellitaire ou l'imagerie aérienne. Mais en gros, au départ, télédétection, c'est quelque chose qui fait une acquisition de loin, à distance. Mais ça a pris un sens un petit peu plus restreint, qui est l'imagerie aérienne, satellitaire ou l'imagerie acquise par des drones, par exemple.
Alors, c'est un domaine qui se développe, du coup forcément au rythme du développement des moyens que vous venez de citer.
C'est vrai que je travaille beaucoup en imagerie satellitaire. Il y a énormément de satellites qui sont lancés à l'heure actuelle puisque, en gros, pour simplifier, autrefois c'était extrêmement coûteux de lancer un satellite et un système, un capteur sur ce satellite. Les coûts ont été beaucoup réduits, donc il y a beaucoup d'acteurs commerciaux qui ont émergé sur ce marché. Et donc, du coup, il y a des compagnies maintenant qui sont capables de lancer des satellites, de faire de l'acquisition et qui vont essayer de développer des marchés. Auparavant, c'était les pays ou l'Europe, des regroupements de pays qui étaient capables de lancer ces satellites. Et donc, maintenant, c'est des acteurs qui sont plus privés, qui peuvent se permettre aussi de les lancer. Et ils vont développer d'autres types de services. Au départ, la télédétection, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'observation de la Terre, des problèmes environnementale, évidemment tous les capteurs météo qui m'intéressent pas ici parce que c'est pas des images sur lesquelles je travaille, mais ces nouveaux acteurs ils vont s'intéresser à faire de la prédiction d'activité pour des prédictions financières hein, par exemple ou des choses comme ça quoi. Voilà, alors un grand domaine historique, c'est tout ce qui va être défense. Là, il y a effectivement des capteurs qui vont pas forcément délivrer les images, etc. Donc ça, c'est effectivement une des branches. Mais il y a énormément de capteurs civils, hein, et donc il y a des politiques très ouvertes, en fait. Hein. L'Agence spatiale européenne, par exemple, elle a envoyé dans les dernières années plusieurs satellites équipés de capteurs imageurs, et toutes les données sont en accès gratuit. Il y a Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, etc. Donc ça, ce sont les missions Sentinel, et bien les données sont en libre accès pour tous les utilisateurs. Quel qu'il soit.
Et là, vous m'aviez parlé, quand on a préparé ce podcast, de SWOT, qui est active depuis le début de l'année. Vous pouvez nous en parler ?
L'imagerie radar, c'est une imagerie un petit peu spécifique, qui est en même temps une imagerie difficile, parce qu'il y a beaucoup de bruit, hein, cette variabilité dont j'ai parlé au début, mais qui a un potentiel énorme, parce qu'elle peut être utilisée sous différentes formes, en fonction du nombre d'images qu'on est capable d'acquérir. Et en particulier, ce type d'imagerie, si vous êtes capable d'acquérir deux images, eh bien, en faisant ce qu'on appelle de l'interférométrie, vous pouvez remonter à une information sur la hauteur des objets à la surface de la Terre. Et donc, c'est utilisé pour calculer des modèles numériques de terrain, des modèles numériques d'élévation. Saut, c'est un capteur un petit peu révolutionnaire puisqu'il permet de faire ce qu'on appelle de l'altimétrie, donc de mesurer la hauteur des points, mais pas juste sur des toutes petites fauchées, mais vraiment sur des plus grandes, des beaucoup plus grandes surfaces au sol, en quelque sorte. Et c'est un capteur qui fait de l'interférométrie qu'on appelle monopasse, c'est-à-dire qu'il va prendre deux images au même moment. Alors que d'habitude, quand on fait de l'interférométrie, il y a le capteur qui passe une première fois, et puis une dizaine de jours après, il va repasser à peu près au même endroit et on va pouvoir faire de l'interférométrie. Alors que là, dans cette mission, il y a deux antennes qui sont mises sur un très grand mât, et donc on fait de l'interférométrie qu'on appelle monopasse, c'est-à-dire qu'on acquiert simultanément les deux images. Et en faisant interférer ces deux images, on va pouvoir cartographier la hauteur de l'eau à la surface de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la hauteur de l'eau dans les rivières, dans les lacs, etc. C'est assez révolutionnaire. Hein. On n'était pas du tout capable de faire ça avant. Enfin, il n'y avait pas d'instrument qui permettait de faire ça. Et donc, nous, on est impliqués dans SWOT parce qu'on a participé aux algorithmes, enfin, la proposition des algorithmes qui extrait les surfaces d'eau, donc qui extrait le masque des lacs et des rivières qui va être utilisé ensuite pour calculer leur hauteur. C'est un exemple d'application des algorithmes que nous, on peut développer en tant que traiteur d'images pour une problématique environnementale qui va être la surveillance des ressources en eau de la Terre.
Oui, c'est un sujet majeur pour la survie de la planète et on comprend la contribution, certes indirecte, mais tout de même fondamentale, que les algorithmes peuvent apporter. Et vous avez commencé à travailler en réel sur ces images où les données ne sont pas encore acquises au moment où nous enregistrons ce podcast?
Alors en fait, nous, on a eu deux thèses qui se sont suivies en collaboration avec le CNES sur ce sujet où on a travaillé sur des données simulées pour lesquelles on a mis au point en fait les méthodes d'extraction des surfaces d'eau. Et ces méthodes, elles sont maintenant appliquées sur les données réelles qui sont acquises depuis le début de la mission. Donc, les premières images réellement diffusées, là, c'est à partir de l'été, hein, qu'elles commencent à être processées. Et donc, on va continuer à travailler sur ces données, mais cette fois-ci, pas dans la définition de la chaîne opérationnelle comme on a pu le faire dans le passé, mais plus pour essayer d'aller plus loin dans l'exploitation de ces données. Si vous voulez, les agences spatiales, donc là, c'est une mission qui est en collaboration entre la NASA et le CNES. Eux, ils ont des contraintes opérationnelles, c'est-à-dire ils doivent faire des chaînes de traitement qui soient capables d'ingérer un très très grand nombre de données, de calculer les masques d'eau, de calculer les hauteurs et de donner des produits aux utilisateurs finaux. Donc nous, la partie développement d'algorithmes plus opérationnels, donc ça a été terminé pour qu'elle puisse être mise en œuvre maintenant qu'on acquiert les données. Mais par contre, on va faire des travaux plus prospectifs pour voir si on pourrait extraire sur des plus petites zones, donc de façon moins opérationnelle, mais de façon plus précise, des informations en exploitant les images qui sont acquises pour avoir des résultats qui sont encore plus précis que ceux qui ont pu être développés dans la chaîne opérationnelle maintenant qu'on a des vraies images. En gros, l'idée, c'est de faire des algorithmes qui vont peut-être être plus coûteux, qui seront plus longs à mettre en œuvre, mais qui seront plus performants et qu'on pourra utiliser sur des zones d'intérêt plus petites, mais sur lesquelles on veut étudier plus en profondeur des phénomènes. En gros, il y a l'aspect large échelle. Donc ça, voilà, c'est des algos, il faut qu'ils soient capables de tourner très vite, d'encaisser énormément de données. Et puis, il y a l'aspect plus recherche sur des zones plus petites sur lesquelles on peut essayer d'extraire des informations plus précises.
Vous parlez d'extraire des informations plus précises. Et est-ce que vous avez aussi des enjeux de sobriété dans l'utilisation des données et chercher à faire mieux ou aussi bien avec moins de données?
Disons qu'il y a des enjeux de sobriété par rapport à des contraintes plus écologiques, si on veut utiliser moins de temps de calcul, etc. Et puis, il y a de toute façon des enjeux de sobriété dans le sens où, par exemple, on a peu de données étiquetées. Donc, on est obligé de développer des méthodes pour lesquelles on n'a pas de vérité terrain, donc qui soient auto-supervisées, etc.
Pour rentrer maintenant un peu plus au cœur de votre recherche, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre travail ?
En fait, notre cœur de recherche, c'est de développer des méthodes qui soient capables d'améliorer les données qui sont acquises par ces satellites, qu'il n'y ait qu'une image ou ce mode interférométrique où il y a deux images ou éventuellement un mode polarimétrique où il y a plusieurs polarisations qui sont utilisées ou un mode tomographique où on va combiner plusieurs acquisitions. Donc, il y a plein de modalités différentes sur lesquelles on travaille. Et en fait, nous, on a une politique de diffusion en open source des différentes avancées qu'on arrive à mettre au point. En fait. Donc ensuite, c'est réutilisé ou par des entreprises ou par les agences spatiales pour leurs propres problématiques.
Et est-ce que c'est important pour vous, cette notion de partage de données, de science ouverte pour faire avancer la recherche ?
Effectivement, ça fait avancer la recherche. Ça me paraît indispensable pour arriver à vraiment évaluer les progrès qui sont faits quand on propose des nouvelles méthodes. On sait que nos algorithmes ont été réutilisés pour différentes applications, par des agences, par des entreprises.
Et là, justement, vous parlez des acteurs de la chaîne. Du coup, des chercheurs comme vous, Florence, êtes en quelque sorte des intermédiaires entre d'un côté les ingénieurs qui construisent les capteurs et extraient les données, et de l'autre, ceux qui les reçoivent. Donc, qui sont plutôt des climaticiens ou des climatologues, en l'occurrence pour les questions d'hydrométrie.
Disons qu'il y a vraiment les gens qui font les systèmes d'acquisition. On travaille beaucoup avec les données des agences spatiales, hein, que ce soit l'ESA ou le CNES. Donc, on va partir de ces données et on va essayer d'extraire une information sur ces données et ensuite faire l'interface vis-à-vis d'utilisateurs qui, eux, vont ensuite avoir des problématiques spécifiques par rapport à l'hydrologie, mais ça peut être aussi par rapport à des problématiques sur la biomasse. C'est vraiment très varié. On a aussi quand même quelques activités plus avec l'AID, l'Agence Innovation Défense, où eux, ils peuvent avoir des problématiques de surveillance de région, où ils vont avoir aussi intérêt à avoir les données les meilleures possibles pour ensuite pouvoir développer leurs applications.
Pour terminer ce podcast, petite question un peu en marge. On parle beaucoup des modèles d'IA générative et de leurs applications en matière de recherche et de génération de texte, mais on parle beaucoup moins de l'intelligence artificielle en rapport avec le domaine de l'imagerie. Et pourtant, on peut dire que les enjeux sont au moins aussi considérables. Et puis, c'est un domaine porteur et qui va se développer de façon exponentielle vu tous les moyens dont on dispose aujourd'hui pour capter les images et tous les enjeux auxquels ces technologies permettent de répondre. Donc, comment vous appréhendez cela ?
Les gens commencent effectivement à travailler pour essayer de construire des modèles de fondation, on va dire, dans ce domaine-là. La nature même des données est un peu différente de celle qu'on peut avoir en vision par ordinateur classique, où vous avez énormément de photos, où vous allez pouvoir récupérer sur Internet, etc., où il y a déjà beaucoup de bases qui existent. En télédétection, les images, elles ont des spécificités dans le sens où ce sont des images très, très grosses, qui font 40 000 par 40 000 pixels. Enfin, c'est vraiment des très grandes données. Elles recouvrent des types d'objets qui vont être très, très variables. Et surtout, on a des connaissances a priori de localisation sur ces objets. Il y a quand même, voilà, la Terre, elle est scalée. Vous pouvez quand même repérer vos objets avec des latitudes et des longitudes, etc. Donc, les gens commencent à développer un peu ces modèles de fondation. Pour l'instant, ça a été testé sur des domaines restreints. Il y a des capteurs qui sont vraiment très différents, qui sont basés sur des systèmes physiques très différents. Donc, est-ce qu'on sera capable de construire des foundation models qui soient suffisamment abstraits pour encaisser différents types de représentations, donc des images qui seraient acquises avec du radar, des images qui viendraient de l'optique, des images qui viendraient de l'hyperspectral, qui auraient des résolutions complètement différentes au niveau des tailles d'objets qu'on peut voir, des résolutions temporelles aussi, puisque ça, c'est une spécificité de ce domaine, on va revoir la même scène plusieurs fois. Voilà, il y a des travaux qui commencent dessus, mais à ma connaissance, voilà, on est quand même plus au début, on va dire, des tentatives de créer des foundation models pour la télédétection.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette illustration de la recherche en intelligence artificielle au service de la surveillance de l'hydrométrie de la planète vous aura intéressé. Rendez-vous dans de prochains épisodes pour découvrir d'autres impacts positifs du numérique dans la lutte contre le dérèglement climatique.